Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio RTL. Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés pour vous interroger, Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour Amélie.
Bonjour, bonjour.
Et Marion Mourgue pour Le Figaro.
Bonjour,
bonjour Marion.
Bonjour.
Vous le savez, cette émission est en direct bien sûr jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller le ministre et lui poser vos questions. Elles seront relayées par Marie-Pierre Haddad en fin d'émission dans Questions Net. Alors Jean-Yves Le Drian, vous êtes certainement aujourd'hui l'un des ministres à la plus grande longévité, presque 9 ans sans discontinuer à la Défense sous François Hollande et donc au Quai d'Orsay depuis 2017. Votre nom a même circulé avec insistance en juin pour Matignon, mais vous avez préféré rester à votre poste. Les affaires étrangères donc, sur ce terrain-là, pour faire simple, vous êtes un peu l'anti-Trump. Vous ne tweetez quasiment jamais et vous êtes très rare dans les médias. Vous êtes davantage un adepte de la diplomatie secrète, discrète. Mais aujourd'hui, suffit-elle vraiment alors que la France est la cible de plusieurs pays emmenés par le président turc Erdogan contre notre modèle laïque? Nous en parlerons bien sûr dans la seconde partie de cette émission. Et puis ce n'est un secret pour personne, Jean-Yves Le Drian, vous avez été socialiste au PS pendant 44 ans, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, vos collègues ministres issus de la droite pèsent, semble-t-il, davantage dans la balance. Et pourtant, en février, à cette même place, vous étiez alors déjà l'invité du grand jury, vous souhaitiez, je vous cite, que la gauche fasse entendre sa petite musique. Avez-vous loupé le coche? N'avez-vous pas été suffisamment entendu? Nous en parlerons également. Mais tout d'abord, bien sûr, l'actualité, c'est le Covid et un déconfinement qui s'annonce très progressif. Amélie Carouer.
Souhaitez-vous que les commerces rouvrent dès vendredi ou samedi? Certes, le président prend la parole mardi, mais vous avez bien un avis.
Écoutez, un peu avant de parler de la Covid, je me permets de, étant donné mes fonctions antérieures et mes fonctions actuelles, de rappeler ici, en début de grand jury, la personnalité de Daniel Cordier. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'était l'avant-dernier compagnon de la Libération. Il a mené des combats très forts pour la libération de notre pays. C'était un homme d'une grande intégrité. Je pense qu'on voit le respect et puis en même temps, peut-être des leçons de courage qu'il a apportées à la France. Je vais revenir sur votre question.
Ma question très pragmatique, mais qui concerne beaucoup de Français. L'ouverture des commerces, avez-vous un avis?
Le sujet principal, c'est d'assurer la santé des Français, d'assurer la bonne mise en marche des mesures que nous prenons pour éradiquer la pandémie. Le sujet principal, c'est la vie. Le sujet principal, c'est d'éviter l'engorgement des hôpitaux. Le sujet principal, c'est d'assurer l'avenir de tous les Français et d'éviter que nous soyons dans les drames des morts. Parce que on ne joue pas avec cela et que l'enjeu est là. Et donc, en fonction de l'évolution du virus, qui est un virus un peu compliqué, qui est un virus itinérant, qui est un virus qui nous surprend régulièrement, il faut prendre les décisions adaptées et les prendre toujours de manière adaptée. C'est-à-dire qu'il faut une réactivité, il faut travailler en temps réel pour prendre la bonne mesure au bon moment. Et c'est la responsabilité du gouvernement, du président de la République. Et c'est en permanence l'adaptation qu'il faut initier. Et donc pour les commerces, ce sera une décision qui sera prise mardi. Et il est clair que les Français sont fatigués. Il est clair que tout cela angoisse. Il est clair aussi que certains d'entre nous sont désespérés parce que ça manque de lisibilité, mais ce virus est toujours incertain.
Mais les commerçants,
il est clair
surtout
aussi qu'il y a eu des efforts importants de fait de la part des commerçants pour essayer d'adapter les jauges sanitaires, pour essayer de prendre des protocoles qui permettent d'assurer la sécurité de la population et des chalands qui viennent les voir. Donc si on peut le faire, on le fera. C'est notre souhait, mais si on pouvait tout faire, on le ferait. Mais le problème, c'est l'impératif de sécurité nous domine.
Vous dites le sujet, c'est la vie. Aujourd'hui, les commerçants, justement, réclament de pouvoir travailler parce qu'ils sont dans une situation désespérée. Vous ne craignez pas, comme Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, une colère des commerçants qui déboucherait sur un mouvement façon gilet jaune?
Moi, je fais confiance à la responsabilité des Français. Maintenant, chacun a dans son environnement quelqu'un qui a été hospitalisé, quelqu'un qui a été en réanimation, quelqu'un qui est décédé. Et on voit bien que l'enjeu principal est celui-là. C'est de responsabilité collective face à la vitalité, à la vie de la France. Et donc, dès que l'on peut faire en sorte qu'il y ait des améliorations du confinement, on le fait. La responsabilité en incombe in fine au président de la République. Le souci des commerçants est largement partagé. Des mesures financières importantes ont été mises en place pour les protéger le mieux possible. Ceci dit, il importe maintenant que l'on puisse progressivement aboutir à une situation meilleure, mais on vivra toujours avec le virus jusqu'à ce qu'on ait trouvé le vaccin.
Oui, mais Bruno Le Maire n'a-t-il pas raison de pousser comme il le fait pour cette ouverture dès le week-end prochain dans l'intérêt des commerçants ?
C'est pas un match entre un tel ou un tel pour défendre un tel ou un tel. L'impératif principal n'est pas celui-là. L'impératif principal, c'est notre sécurité collective face au virus. Et ensuite, on fait valoir l'intérêt, l'importance de tel ou tel sujet. Et moi, je comprends très bien l'inquiétude. Le drame même que vivent les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs, bref, toute cette catégorie professionnelle qui est angoissée par rapport à l'avenir.
Il y a la question aussi qui est celle de Noël. Est-ce que vous souhaitez en tant que ministre aller passer vos fêtes en Bretagne? Est-ce que vous souhaitez que les Français puissent circuler librement en France à ce moment-là?
Il y a la question du souhait et la question de la réalité. Si d'aventure l'évolution est progressive et positive, tant mieux. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises. Il y aura une deuxième série de décisions qui sera prise vers le 20 décembre, pardon. Puis il y aura une troisième série de décisions au début de l'année prochaine, en fonction de la circulation du virus, de l'évolution des prises en charge, de la tension qui existe sur les hôpitaux. Il faut prendre en considération tout ça. Vous savez, moi, je suis très frappé d'une chose. C'est que la situation, elle est partout pareille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait se dire il y a dans tel ou tel pays, dans tel ou tel endroit, une espèce de havre protégé de la Covid-19. En réalité, ce n'est plus le cas. À New York, on vient de refermer les écoles. Je vois qu'à Adélaïde, en Australie, qui était pourtant une grande île un peu préservée, on vient de reconfiner. Je vois qu'en République tchèque ou en Suisse, où on disait que c'était des pays qui avaient passé convenablement la première vague, ils sont dans des niveaux de circulation de virus extrêmement impressionnants, même très dangereuses. Bref, c'est partout cette difficulté. Et on essaie de la juguler ensemble.
Mais parce que c'est partout, est-ce que vous allez travailler en Europe à renforcer, protéger les frontières européennes pour éviter notamment une troisième vague? L'harmonisation européenne, elle n'a pas été réussie à tous les coups d'ailleurs ces derniers temps, mais là, vous allez y travailler.
Mais elles sont fermées. Elles sont fermées depuis le mois de mars dernier, les frontières à l'extérieur de l'Europe.
Et
elles sont toutes fermées, excusez-moi de vous le rappeler.
Et à l'intérieur
on
de
ne
l'Europe...
peut pas venir aujourd'hui en Europe sauf si on est résident européen ou résident français.
Et à l'intérieur de l'Europe ?
Et cette fermeture-là, elle va continuer, sauf de rares exceptions, jusqu'à ce que nous soyons guéris mondialement. On va peut-être y revenir sur les vaccins, mais c'est un enjeu de la communauté internationale. À l'intérieur de l'Europe, c'est vrai que la première vague, ça n'a pas été grandiose.
Ah oui,
chacun y est allé. C'est beaucoup mieux.
Il n'y a pas d'harmonisation.
Pas du tout. C'est beaucoup mieux. Parce que les 27 se sont mis d'accord d'abord pour établir une cartographie en Europe de la circulation du virus, pour harmoniser les mesures à prendre pour juguler la pandémie, pour informer les uns et les autres de leur positionnement. Les frontières intérieures ne sont pas fermées, elles sont dans beaucoup de pays contrôlées pour faire en sorte que l'ensemble de l'espace européen soit protégé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que ce qui se passera encore pendant un certain temps. D'ailleurs, l'Europe a réussi à prendre le relais d'une situation qui, au début, était effectivement...
Alors, on va y venir sur les vaccins. Mais d'abord, Marion Mont.
Jean-Yves Le Drian, vous disiez que tous les pays européens connaissaient un peu la même situation. Quand vous voyez l'Allemagne qui se moque foncièrement de ce que fait la France en parlant d'absurdistan, c'est un grand quotidien allemand qui utilise ce mot, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction?
Je ferai remarquer que le taux d'incidence aujourd'hui à Berlin est le même plus important qu'à Paris. Donc il n'y a pas une exception allemande, même si on constate avec plaisir pour les Allemands que la pandémie a moins touché l'Allemagne aujourd'hui que la France. J'espère que ça ne va pas s'aggraver. Mais aujourd'hui, les Allemands sont aussi dans la grande inquiétude par rapport à leur dispositif. Alors qu'on traite tel ou tel pays de tel ou tel sobriquet, c'est la responsabilité de celui qui l'a écrit. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons une relation extrêmement étroite avec les autorités allemandes. c'est un petit peu différent dans l'organisation qu'avec les autorités françaises, puisque ce sont les Länder qui ont un rôle le plus important pour assurer les politiques de santé. Mais mon collègue Olivier Véran a des relations quasiment journalières avec son collègue allemand.
Mais Jean-Yves Le Drian, il y a quand même une discussion, une interrogation de la part des Français qui nous écoutent notamment sur les chiffres. Emmanuel Macron, dans sa dernière allocution, disait qu'on aurait 9000 personnes en réanimation, quoi qu'il arrive. On est bien en dessous de ce chiffre-là. Est-ce que ce n'était pas alarmiste? Est-ce que ça ne nourrit pas la peur et du coup la défiance des Français sur les chiffres officiels ou en tous les cas sur la perception qu'a l'exécutif de cette pandémie?
Il faut travailler en temps réel, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la connaissance de ce virus est encore très incertaine. On pensait qu'il était éradiqué dans tel ou tel pays et il revient. Et donc, tout cela est assez aléatoire. Et donc, si on ne réagit pas en temps réel, eh bien, et si on ne fixe pas de préférence une prévision pessimiste pour pouvoir mieux gérer si l'évolution est plus positive, à ce moment-là, on se trompe et ce n'est pas responsable.
Donc vous assumez ce côté
pessimiste. Je pense qu'il faut le faire.
Ce
qui permet ensuite d'alléger, parce que si on n'avait pas pris les mesures nécessaires, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Si on n'avait pas pris les mesures sur le couvre-feu, puis sur le reconfinement, on ne serait pas devant ce constat, soyons prudents, d'amélioration progressive. Je dis, soyons toujours prudents, parce qu'il peut y avoir des retours, et je crois que c'était juste de procéder ainsi. Mais je comprends que les Français veulent de la lisibilité.
Alors justement,
on la donne, je pense, le mieux possible, le plus rapidement possible, mais en étant tout à fait convaincu qu'il faut toujours s'adapter, il faut toujours travailler en temps réel.
Ils veulent de la lisibilité sur les vaccins, Amélie Carrère.
Oui, qui dit défiance dit beaucoup vaccins ces derniers temps. D'ailleurs, allez-vous vous faire vacciner, Jean-Yves Le Drian, à l'arrivée d'un vaccin? Est-ce qu'il faut rendre d'ailleurs la vaccination obligatoire pour tous?
Sur le vaccin...
Oui, vous vous ferez vacciner.
Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est une question que je ne pose même pas, d'abord parce que j'ai plus de 70 ans. Et donc je suis susceptible d'être une personne à risque, et ensuite parce que je considère que c'est mon devoir, tout simplement. Mais on n'a pas encore tout réglé sur les vaccins. La nouveauté, puisque vous me parliez de l'Europe, c'est quand même que sur cette question des vaccins, il y a une vraie mutualisation européenne.
Oui, on va venir, mais juste la question quand même, sur l'obligation.
L'obligation vaccinale.
Il faut poser les problèmes les uns après les autres. Pour l'instant, on n'a pas le vaccin. Il va y en avoir 5, 6, 7, peut-être plus. Il faut les tester, il faut les vérifier, il faut avoir les autorisations de mise en marché, il faut ensuite que la Haute Autorité de la Santé valide tout cela en France, et puis il faut faire vacciner les Français, progressivement, parce que les vaccins ne sont pas tous les mêmes, et qu'il faudra gérer le bouquet de vaccins que nous allons mettre en œuvre, et faire en sorte que progressivement, on identifie les catégories prioritaires.
Vous ne répondez
donc
pas sur la question
non, je
de l'obligation.
Ce n'est pas la question d'aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, pour répondre à la question... Si ça ne passe pas par Jean-Yves Le Drian, est-ce que ça doit passer par un débat démocratique du gouvernement?
Je pense que la question se posera à un moment donné au courant du premier semestre. Mais la question principale, à mon avis, je ne suis pas le ministre de la Santé, mais à mon avis, c'est de savoir qui on identifie au départ comme les personnes qui doivent d'abord se faire vacciner. Est-ce que ce sont les personnes à risque? Est-ce que ce sont les personnels de santé? Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que c'est un cocktail de tout cela? C'est la première démarche, mais il y a aujourd'hui, vous le savez, une task force vaccin autour du président de la République et du Premier ministre pour élaborer les synergies. On est plutôt en bonne posture sur les vaccins. On a des signes positifs, des signes intéressants. L'Union européenne a fait ce qu'il fallait pour préempter, pour acheter par anticipation dans différentes entreprises qui sont productrices de vaccins. Maintenant, il faut vérifier, s'assurer de la faisabilité, s'assurer de l'innocuité des vaccins pour ensuite nous rassurer. Rien ne serait pire qu'il y ait des vaccins qui ne soient pas homologables.
Est-ce que la France sera prête? On voit que justement d'autres pays au sein de l'Union européenne, comme l'Allemagne ou l'Espagne, se préparent déjà, achètent les vaccins, organisent une campagne de vaccination. Est-ce que nous, on est à ce niveau-là? Est-ce qu'on sera prêt?
Bon, il y a une task force qui a été mise en place, qui travaille. J'ai vu deux déclaratifs hier. L'un allemand, l'autre espagnol, pour dire on va le faire. Nous aussi, on va le faire, bien évidemment.
Et on travaille.
Et on travaille. Ils annoncent des plans.
Ils ne sont pas encore sortis. Ils annoncent qu'ils vont annoncer des plans.
Non, l'Allemagne dit par exemple.
L'Allemagne a annoncé pour Berlin j'ai vu des hangars majeurs.
Stratégiques.
Et nous, on a une expérience qui a plutôt été discutée. Vous vous souvenez du H1N1 en 2009? C'était pas terrible. parce qu'on avait fait une logique un peu centralisée. Donc il faut essayer de trouver une posture plus adaptée avec la participation des professions de santé. C'est ce sur quoi travaillent la Task Force et Olivier Véran.
Oui, mais il y a quand même, vous savez, parce que les Français sont échaudés par les masques, par les tests. Et là, ils s'inquiètent des vaccins. Et c'est vrai, on va en Allemagne, en Espagne, ils sont en train de se préparer. Et regardez, Moderna, qui est quand même ce laboratoire avant-gardiste, hein, start-up, qui dit, avec la France, on a eu du mal à négocier sur les vaccins. Ça a pris beaucoup de temps. Du coup, il n'y a que 80 millions de vaccins qui sont pour l'instant vendus à l'Europe, alors que ça a été très rapide avec le Canada de négocier, très rapide avec les États-Unis.
Chacun se place. Vous savez bien, les grandes entreprises qui fabriquent des vaccins se placent et éventuellement utilisent un certain nombre de déclaratifs pour essayer de mieux se positionner. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Union européenne avait préempté plus d'1,5 milliard de doses de vaccins qui vont être redistribuées pro rata entre les différents pays européens qui vont acheter ces vaccins et qui vont ensuite les diffuser le mieux possible avec des techniques propres à chaque pays, évidemment. Et c'est là-dessus que travaille aujourd'hui cette task force. Moi, je n'ai vu pour l'instant sur l'Allemagne, puisqu'on en parle, sur l'Espagne, puisque vous en parlez, que deux déclaratifs.
Bon, donc, vous déclaratif
n'est pas un plan.
Mais en tout cas, vous dites que si on a les vaccins, ils seront administrés progressivement et d'ici la fin de l'année, c'est possible pour la France.
Ah, je n'ai pas dit ça.
C'est ce qu'on attend de savoir.
Je n'ai pas dit ça. Rien.
Si nous avons les vaccins,
c'est pas moi, ministre des Affaires étrangères, qui veut vous dire que le vaccin marche.
Non. Est-ce que nous aurons la capacité de l'administrer?
À l'administrer, je pense.
D'ici la fin de l'année. Très bien. Amélie Carrère sur la
Dès que le vaccin sera opérationnel, validé par l'Agence européenne du médicament et par la Haute Autorité de Santé.
Et ça prend toujours du temps,
Jean-Yves.
Pourquoi ça prend toujours plus de temps?
Parce qu'il faut pas du tout. Ça va être validé par l'Agence européenne. Mmh. C'est pas en France, l'Agence européenne. Mmh. C'est sur l'ensemble de l'Europe. Et c'est absolument indispensable que ça se fasse. C'est le préalable. Je ne vois pas pourquoi il faudrait en permanence nous battre la coulpe parce que ici, le Premier ministre espagnol a dit quelque chose et parce que là, tel ou tel responsable allemand a dit autre chose. Nous avançons.
Parce que les Français ont été échaudés par les tests et les masques.
Oui, mais les autres pays
aussi. Jean-Yves Le Drian.
Il y a eu des difficultés aussi partout. Partout. Puisque vous parlez de l'Espagne. On peut parler de l'Italie. On peut parler aujourd'hui de la Suisse. C'est très difficile pour tout le monde. Nous traversons tous une période difficile. Donc il faut se tenir les coudes pour passer l'obstacle, je pense qu'on réussira.
Pour toutes ces questions, pour tous ces débats, est-ce que vous estimez que le travail avec le Parlement, les parlements en France est suffisant? Est-ce que vous estimez que c'est suffisant de prendre certaines décisions en Conseil de défense, puisqu'on a entendu de nombreuses critiques sur le sujet? François Hollande a mis en garde contre l'exercice solitaire du pouvoir qui comporte plus de risques que de chances.
Moi, j'ai entendu ces propos sur le Conseil de défense concernant le sanitaire et ça m'épate. Parce qu'en fait, il est quand même logique que face à une telle situation de gravité pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble de la population, régulièrement, le président de la République s'entoure des compétences qui sont près de lui pour se forger un avis et prendre des décisions majeures. Enfin, c'est quand même le bon sens.
Est-ce que c'est pas le rôle du Conseil de ministres?
Et ensuite, le Conseil des ministres a lieu juste après.
Mais tout le monde n'est pas associé au Conseil
de défense. Les conclusions du Conseil de défense sont données au Conseil des ministres juste après. Alors, je vois pas où est le problème.
Et ensuite, pas la discussion, c'est-à-dire qu'on décide.
La discussion est faite généralement, comme tous les sujets majeurs, par les gens qui ont la responsabilité et la compétence sur ce sujet. Mmh. Ce qui est normal, personne ne le conteste. Et ensuite, le Parlement est saisi. Et ensuite, le Premier ministre consulte les groupes politiques. Et ensuite, le Premier ministre consulte les partenaires sociaux.
C'est ce qui va se passer lundi. Vous qui avez été élu parlementaire, Gérard Larcher qui était à votre place.
Non, mais excusez-moi, cette campagne-là, je la trouve pittoresque. De la part de gens qui, par ailleurs, veulent que ça marche. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un moment donné où il y ait l'ensemble des décideurs qui se réunissent en disant, à mon avis, vu la situation, voilà ce qu'il faut faire. Le Conseil des ministres le valide, et ensuite, les consultations avec les parlementaires se déroulent normalement.
Je crois que c'est de la responsabilité de l'État. C'est de la politique politicienne, même de la part du président.
C'est assez malvenu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre chose à dire.
Quand le président du Sénat s'alarme du nombre d'ordonnances qui ont été prises depuis le début du quinquennat, et notamment dans cette crise, est-ce que pour vous, le Parlement est quand même suffisamment associé pour que les ordonnances
puissent le dire en direct? Souvent au Parlement, le gouvernement est interrogé tous les mardis par les députés, tous les mercredis par les sénateurs, généralement tout le temps sur ces questions. En plus, le Parlement est saisi par des lois d'urgence sanitaire. En plus, il y a les consultations par le Premier ministre. Bon, on peut peut-être faire mieux, on peut toujours faire mieux. Je vois qu'on peut envisager peut-être un comité parlementaire de suivi, pourquoi pas, j'ai vu cela quelque part, mais la volonté de la plus grande transparence est au rendez-vous.
Oui, mais vous voyez, par exemple, un autre débat, c'est celui de l'isolement contraint des personnes contaminées. Alors, Gabriel Attal, ce matin, dans le journal des dimanches, dit « Moi, j'y suis à titre personnel favorable pour permettre aux autres bien, de continuer à vivre. » Est-ce que cela, ça devrait pas faire l'objet d'un débat parlementaire ?
Si cette question-là se pose, sûrement. Mais comme la prolongation de l'état d'urgence sanitaire a fait l'objet d'un débat au Parlement. Oui. Dans ces cas-là, oui.
Mais à
quand il y a... Quand il y a des interrogations sur la liberté individuelle, ça passe toujours au Parlement, depuis le début de la crise.
Alors, il y a aussi un autre sujet dans l'actualité, venons-y, c'est celui de la loi sur la sécurité globale qui a fait l'objet, lui, d'un débat parlementaire. Amélie Carouer.
Oui, manifestation à nouveau hier, des milliers de personnes à Paris, mais pas seulement, hein, d'ailleurs, Lille, Rennes, qui se s'insurgent encore contre cet article 24 avec la question de la pénalisation de la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. Vous êtes un homme de gauche. Comment résonnent en vous les propos de la défenseure des droits qui demande toujours son retrait ? C'est un texte qui est désigné comme attentatoire à la liberté d'expression, à l'état de droit.
Oui, il y a des choses très, très simples sur ce sujet. D'abord, j'avais fait part de mes interrogations il y a la semaine dernière chez un de vos confrères. Je le rappelle. Ensuite, concernant le débat liberté-protection, liberté-sécurité, qui est un vieux débat de nos démocraties, il y a une formule de Montesquieu, ça remonte, vous le savez, qui disait il faut, de temps en temps, il faut changer la loi, mais lorsque l'on change la loi, il faut toujours avoir la main qui tremble.
Mmh.
Et le lieu où on règle le tremblement, c'est le Parlement.
Mmh.
C'est ce qui s'est passé. Et donc, devant deux contraintes que j'expose. La première, c'est de protéger ce qui nous protège. Et de la responsabilité qu'a l'État, qu'a la République, de faire en sorte que les agents qui servent la République soient protégés dans leur mission, c'est incontournable.
Mmh.
Ça vaut pour les professeurs, ça vaut pour les policiers, ça vaut pour tous les agents public de l'État, nous avons la responsabilité de les protéger et d'assurer leur propre sécurité. Et puis, par ailleurs, il faut assurer la liberté d'expression et singulièrement la liberté de la presse. Il y a sans doute eu quelques malentendus. Moi, je considère que ce qui a été décidé par le Parlement avec l'amendement qui précise qu'il n'y aurait aucune atteinte au droit d'information et que s'il y avait une intention de nuire pour l'utilisation d'images, il faudrait qu'elles soient manifestes et validées par un juge. Ce compromis-là et cette position-là me convient.
Mais est-ce que vous trouvez
qu'il y a eu débat et c'était bien qu'il y ait eu débat.
Est-ce que vous trouvez que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a fait trop, a eu une main trop lourde pour intervenir dans ce texte ?
Il a eu la responsabilité et le bon sens de poser la question. Il fallait la mettre sur la table. Parce que lorsque tel ou tel se voit sur les réseaux sociaux voir sa photo accompagnée de messages de haine, d'une espèce de vindicte pour tel ou tel, parce qu'il a été reconnu dans tel ou tel endroit. Ça vaut pour un policier comme ça vaut pour un enseignant. Ce n'est pas acceptable.
Et la République doit les protéger. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une toute-puissance policière, quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une toute-puissance policière ?
Je ne vois pas là, à partir du moment où ce texte est voté en ces termes, je ne vois pas le risque.
Jean-Yves Le Drian, dans le même temps, Gérald Darmanin, il a dit que les journalistes devraient peut-être s'accréditer en gros auprès de l'État pour pouvoir manifester. Est-ce que d'une manière générale, il va trop loin ?
Il s'est expliqué sur ce sujet auprès de vous, auprès de vos représentants, pour dire qu'il y avait eu un malentendu sur ce point, sur la validation par la préfecture.
Est-ce qu'il a une tendance à aller trop loin
là-dessus ? Non, il est pris par sa détermination à faire respecter l'ordre républicain et il a raison de faire respecter l'ordre républicain. Il est soucieux du fait que les agents publics ne soient pas soumis à la vindicte des réseaux sociaux et il a raison.
Donc l'homme de gauche que vous êtes est à l'aise dans ce gouvernement.
L'homme de gauche que je suis est à l'aise avec l'ordre républicain parce que il y a une chose que je veux vous dire. L'ordre républicain, ce n'est pas contre la gauche. La gauche, elle était aux fondamentaux de la République et la protection et la sécurité, c'est une valeur de gauche. Parce que ceux qui sont les victimes de l'absence de protection et de l'absence de sécurité, ce sont généralement ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont les moins protégés. Et donc, moi, je suis favorable à l'ordre républicain.
Mais Jean-Yves Le Drian, si vous étiez entendu, si votre sensibilité l'était, est-ce que Gérald Darmanin en serait venu à cet article 24 ?
Eh bien, vous voyez, on est sorti de l'article 24 dans sa première rédaction.
Donc,
certaines voix ont été entendues, y compris au Parlement.
La vôtre, Jean-Yves Le Drian, pour être clair.
Certaines voix ont été entendues, y compris au Parlement.
Vous avez tapé du poing sur la table, vous estimez qu'on dépasse un peu les limites.
Je ne suis pas dans cette logique-là. Vous voulez, dans ces débats-là, faire monter un tel contre un tel. Je ne suis pas dans cette logique-là. Il y a une unité du gouvernement. Et puis, à un moment donné, il y a débat. Le Premier ministre tranche, il l'a fait. Voilà, les choses sont simples.
Alors, il y a un autre sujet aussi sur lequel on vous attend, Jean-Yves Le Drian, c'est celui de l'immigration. Il y a tout un débat, notamment ici soulevé par Gérard Larcher la semaine dernière, qui veut limiter le regroupement familial. Et Didier Lesqui, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est un homme issu de la gauche, dit cette semaine dans l'Obs qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France et il pose clairement la question du regroupement familial. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Yves Le Drian ? Faut-il un moratoire sur l'immigration ou faut-il remettre en question le regroupement familial ?
Il ne faut pas prendre cette question uniquement par un bout. Il y a besoin de repenser ensemble, au niveau européen, la relation migration-asile. Ça me paraît indispensable. Et on a vu ce que ça avait donné en 2015, on a vu l'impact des migrations irrégulières, et j'ai en plus une conviction d'homme de gauche. C'est que le non-respect des procédures sur le droit d'asile ou l'acceptation des immigrations irrégulières sans contrôle, ça tue le droit d'asile.
Donc ça a été
ça le remet en cause parce qu'il n'a plus sa validité. Et il y a parfois des détournements de droit d'asile. Mais je reviens sur le paquet migration-asile qui va être maintenant discuté au niveau européen et ça risque de nous incomber puisque le dossier est sur la table de l'Union européenne et puis que la France aura la présidence de l'Union européenne au début de 2022 et sans doute que la procédure va nous amener jusqu'à là.
Et sur le regroupement familial en particulier.
Je vais y revenir parce que le regroupement familial, ça nécessite aussi l'interrogation globale sur ce sujet. Sur cette question d'immigration, il y a, à mon avis, quatre orientations qu'il faut tenir en même temps. D'abord, il faut renforcer Frontex. Il faut renforcer la sécurisation de nos frontières. Extérieur de l'Europe. C'est vrai pour les questions de migration. C'est vrai aussi, parallèlement, pour les questions de sécurité ou de terrorisme, même si je ne mélange pas les deux sujets. Mais les deux sujets ont un point commun, c'est la sécurité des frontières. Deuxièmement, il faut faire en sorte qu'entre les États membres de l'Union européenne, c'est ce qui a pêché aujourd'hui, il y ait une bonne articulation entre la solidarité et la responsabilité. La responsabilité, c'est faire en sorte que lorsqu'il y a des migrations irrégulières, je pense en particulier aux pays qu'on appelle les pays de premier accueil, ces pays assurent le fait qu'il y ait identification de ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile et de ceux qui ne peuvent pas en bénéficier et qui doivent rentrer. Il faut renvoyer. Mais ces pays disent « nous ne pouvons pas faire ça tout seuls ». Ils ont raison. Il faut qu'il y ait une solidarité européenne, que ce soit par des moyens partagés ou que ce soit par des financements caractérisés pour permettre à ces pays d'assumer leurs responsabilités. Et puis le quatrième point, c'est une collaboration avec les pays de départ et avec les pays de transit, collaboration indispensable et qui est encore aujourd'hui assez balbutiement. Ce paquet-là, c'est central. Parce qu'il fait en sorte que le droit d'asile est respecté, il fait en sorte que les migrations régulières soient respectées, et il fait en sorte aussi qu'il y ait une solidarité européenne sur l'ensemble. On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Et est-ce qu'il faut réformer Schengen ? On arrive à la pause. Mais est-ce que ce président a dit cela ? Il a agité une réforme qui semble improbable de l'espace Schengen.
Ce sont les éléments que propose le président de la République pour la réforme de Schengen. Entre autres, sur l'immigration, ce sont ces quatre points-là, y compris avec un élément supplémentaire qu'il a proposé, moi que je partage tout à fait, et qu'il y ait un lieu de gouvernance de Frontex ou de l'espace Schengen, si vous voulez, qui soit pertinent et qui aujourd'hui n'existe pas vraiment.
D'un mot, Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous nous dites qu'on n'est pas laxiste en France sur l'immigration ?
Non, on n'est pas laxiste, pas du tout.
Elle
n'a pas de leçon à nous donner sur ce sujet. Parce que dans le passé, elles n'ont pas pris automatiquement les mesures qu'il convenait de prendre.
Très bien, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury. On parlera bien sûr politique internationale et notamment l'élection de Joe Biden. A tout de suite.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. À demain pour notre balade au cœur du patrimoine musical et à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.
RTL Matin, 7h25, les pépites d'Anthony Martin.
Odette, 83 ans, nous parle du jour du Seigneur et du legs.
Que l'émission s'arrête ? Oh, ce serait inimaginable. Pour moi, la religion, c'est un héritage. Alors mon héritage, il ira au jour du Seigneur. Je leur ai fait un legs pour que mon patrimoine leur revienne quand je ne serai plus là. Ça ne me rend pas triste, ça me met en joie. Comme ça, d'autres pourront, comme moi, rester en communion avec l'Église grâce à l'émission.
Renseignez-vous sur le legs auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013, Paris.
RTL, il est 12h30. Les infos, Hortense Crétin. Bonjour Hortense.
Bonjour Myriam, bonjour à tous. Il est clair que les Français sont fatigués et angoissés de ce confinement, mais la situation est toujours incertaine. Déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il parle aussi d'une task force vaccin autour d'Emmanuel Macron et du Premier ministre. Dans ce contexte et à un peu plus de 48 heures de son allocution pour faire le point sur l'épidémie, le président de la République annonce lui dans le journal du dimanche vouloir mettre fin à l'incertitude sur la crise sanitaire. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, parle d'assouplissement au confinement en trois étapes selon l'évolution du virus, autour du 1er décembre, avant les vacances de Noël, puis à partir de janvier. Selon les derniers chiffres, 300 malades du Covid-19 sont décédés en France ces dernières 24 heures. Le nombre de patients en réanimation lui diminue pour le cinquième jour consécutif. À l'étranger, le cocktail d'anticorps de la firme américaine Regeneron, autorisé aux États-Unis en urgence pour freiner la propagation du virus. C'est ce traitement qu'avait pris le président Trump. Hier, le pays a passé la barre des 12 millions de contaminations et comptabilise 255 800 décès. Et après l'apparition d'une souche contagieuse de la grippe aviaire dans au moins deux élevages de volailles, les Pays-Bas annoncent avoir abattu 190 000 poulets dans deux élevages. En France, un deuxième cas de grippe aviaire a été détecté jeudi dans une animalerie située près des Yvelines. En sport, le 15 de France de rugby affronte l'Écosse cet après-midi. Coup d'envoi à 16h15 à Murrayfield du match pour le tournoi d'automne des Nations. À 19h, ce sera la finale des Masters de tennis à Londres entre Daniil Medvedev et l'Autrichien Dominic Thiem. Et puis en football, suite de la 11e journée de Ligue 1 cet après-midi. Ce soir, Lille reçoit Lorient au stade Pierre-Mauroy à 21h. Ce sera au programme de RTL Foot dès 20h. Avant ça, Jean-Michel Blanquer est l'invité d'Isabelle Langer à 19h30 dans Refait le sport. Le ministre de l'Éducation et des Sports va évoquer les mesures du gouvernement pour le monde sportif. La météo cet après-midi avec du soleil sur les trois quarts sud du pays, un ciel plus nuageux dans les régions au nord de la Seine avec des pluies entre le Cotentin et le Pas-de-Calais. Les températures cet après-midi entre 8 et 17 degrés, comptez 9 à Lyon, 12 à Lille et Paris, 14 à Bordeaux et Montpellier, 16 à Marseille et Ajaccio. Les courses cet après-midi ont lieu à Vincennes, départ à 15h15. Dominique Cordier vous conseille de miser sur le 9, le 5, le 6, l'As, le 2, le 14, le 10 et le 13. Le 9, le 5, le 6, l'As, le 2, le 14, le 10 et le 13. La dernière minute de Dominique, c'est le 6, Money Viking. Dans un instant, la deuxième partie du grand jury de Benjamin Sportouche avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
En ce moment, profitez d'une remise jusqu'à 3000 euros sur l'achat de votre véranda Rénoval. Et pendant le Black Friday, Rénoval vous offre 1000 euros supplémentaires pour un achat de 10 000 euros minimum. Conditions en magasin et sur Rénoval.com.
Rénoval.
Véranda, extension, abri de piscine.
Pour les fêtes de fin d'année, la TV d'Orange nous fait un super cadeau. Jusqu'au 3 janvier inclus, la chaîne du Père Noël est offerte en exclusivité aux abonnés de la TV d'Orange. Des films, des séries et des dessins animés pour partager en famille toute la magie de Noël. La chaîne du Père Noël en exclusivité sur le canal 31 de la TV d'Orange. Chaîne non disponible pour les abonnés dont la TV est desservie par satellite.
Bonjour, c'est Laurent Marsic.
Lis-moi une histoire.
RTL et Albin Michel Jeunesse ouvrent pour une deuxième saison la grande bibliothèque à histoire.
Le monstre ne voulait pas garder pour lui seul une proie si appétissante. Alors il invita tous ses monstrueux amis à une monstrueuse fête.
Cette semaine, retrouvez une histoire savoureuse et culinaire. Quoique, avec Cher Monstre d'Emma Yarlette, lue par Stéphanie Coury, bibliothécaire jeunesse dans le Val d'Oise.
Chaque semaine, retrouvez un nouvel épisode de Lis-moi une histoire sur l'application RTL et vos plateformes favorites. Suite du grand jeu.
jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Amélie Carouer de TF1 LCI et Marion Mourgue du Figaro. Jean-Yves Le Drian, bien sûr, on en vient à la situation aux États-Unis et l'élection de Joe Biden. Marion Mourgue.
15 jours après l'élection, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite et le processus de transition n'est pas engagé. Dans d'autres pays, on parlerait de coup d'État. Est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui ?
Non, ce n'est pas le cas. Il y a d'abord eu une élection d'une grande mobilisation démocratique. Jamais il y a eu autant d'Américains à aller voter. C'est le signe d'une santé démocratique, néanmoins. Et ensuite, il y a les recours qui sont engagés par l'équipe de Donald Trump pour vérifier, s'assurer dans des États où le score était un peu juste, s'il n'y avait pas eu mauvais comptage. Ces recours sont en cours. Ça a déjà eu lieu dans d'autres élections. Rappelez-vous l'élection de 2000, où il a fallu attendre très longtemps pour avoir le décompte de la Floride. Jusqu'à là, c'était cela. Et les procédures prévues par les institutions américaines se déroulaient normalement jusqu'à ce qu'il y ait cette déclaration du patron, M. Krebs, du patron de l'agence de vérification informatique des élections, qui a déclaré publiquement, vous l'avez vu, jamais des élections n'ont été aussi claires, aussi transparentes, c'était mardi dernier, oui. Dans l'histoire des États-Unis.
Donc Donald Trump viole la loi, en quelque part.
Et pas pour l'instant. Et du coup, il l'a démis de ses fonctions. Bon. Oui, M. Krebs.
Oui, mais justement.
Quelle conclusion vous en tirez, oui.
Nous sommes toujours dans la première phase. Là où ça va devenir plus compliqué, c'est autour du 8 décembre, pour le moment où les États vont désigner les grands électeurs, qui devront s'exprimer le 14 décembre, avant que ce soit validé au mois de janvier par le Congrès. Et là, on apprend qu'il y aurait des pressions qui seraient effectuées auprès des autorités des différents États pour ne pas reconnaître le résultat tel qu'il avait été acté. Dans l'état actuel des choses, ça ne marche pas. Mais nous sommes en phase de ce que Joe Biden dit être d'une incroyable irresponsabilité, et je partage ce propos de Joe Biden. Je ne suis jamais exprimé de cette manière, mais on arrive à un point.
Vous dites que Donald Trump est irresponsable.
Je constate que la déclaration de Joe Biden correspond à la réalité, et je le dis très clairement.
Est-ce qu'il y a un problème démocratique, et pas seulement aux États-Unis, grave, au niveau aussi international? Parce que pendant ce temps-là, il est là, Donald Trump. Hein, il est sur le dossier afghan, pas seulement, le dossier iranien, peut-être avec une tentation de stratégie de la terre brûlée.
Je remarque que les pressions qui ont été effectuées sur les uns et sur les autres pour agir ainsi n'ont pas donné de résultat. Et donc il y a une solidité, j'en suis tout à fait convaincu, de la démocratie américaine, qui sera au rendez-vous des échéances institutionnelles qui sont prévues par la loi américaine. Ce qui serait difficile, c'est de constater dans les 2 mois qui viennent que des postures de politique internationale, de politique étrangère, soient prises par les États-Unis qui remettraient en cause des engagements collectifs.
Vous pensez à quoi, par exemple? Est-ce que vous craignez le déclenchement d'une guerre
j'ai un exemple
en Iran, puisque
on dit
que Donald Trump a émis des menaces de frapper l'Iran son entourage l'en a dissuadé.
J'ai constaté, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Mike Pompeo, mon collègue américain, la semaine dernière, de passage à Paris, nous avons eu une longue discussion d'une heure, le président de la République l'a reçu aussi pendant un moment, je n'ai pas constaté de volonté de politique de la terre brûlée. Il n'empêche que, sur quelques sujets, il faut faire preuve d'une grande précaution. Je pense à un exemple particulier qui est celui de l'Irak, où, vous le savez, Daesh est toujours présent, de manière souterraine, de manière clandestine, mais toujours là. Où il y a en plus des mouvements désordonnés qui provoquent toujours une insécurité globale, et où nous avons des missions communes dans le cadre de la coalition contre Daesh. Nous sommes nombreux dans cette coalition, nous sommes nombreux de pays. Mais cette coalition, elle a été enclenchée dès 2014. où nous mettons des forces pour former les forces irakiennes, pour assurer, contribuer à assurer la sécurité. Et j'entends que les États-Unis pourraient retirer une partie de leurs forces d'Irak.
Oui.
Ce qui paraît surprenant, d'abord parce que nous sommes dans une coalition.
Surprenant et dangereux.
Surprenant d'abord, dangereux ensuite. Surprenant parce que nous sommes dans une coalition. Et normalement, dans une coalition, ben, chacun se parle. Et d'autant plus que Mike Pompeo, la semaine dernière, ne l'a pas dit. D'autre part, et c'est dangereux parce que Daesh est toujours présent. Et puis que, curieusement, ce serait d'une certaine manière donner raison à l'Iran. Puisque ceux qui risquent de déstabiliser aujourd'hui l'Irak, ce sont souvent des milices liées à l'Iran, en plus de Daesh. Et là, je pense que je ne serai pas le seul à ne pas comprendre.
Mais Jean-Yves Le Drian,
en souhaitant que le bon sens, là aussi, l'emporte sur
ces tentations.
Mais le
bon sens, est-ce que ça veut dire que vous appelez aujourd'hui Donald Trump à reconnaître sa défaite? C'est ça que vous lui dites aujourd'hui?
Ah ben moi, je n'ai pas à m'insérer dans la politique américaine. Les Américains sont suffisamment majeurs pour prendre leur responsabilité à cet égard. Et je constate que Joe Biden l'a fait.
Est-ce que vous avez commencé justement à travailler avec Joe Biden et avec ses proches pour certains dossiers, notamment la Turquie ou d'autres conflits actuellement?
Pour l'instant, pour être très clair, non. Parce que l'équipe de Joe Biden et Joe Biden lui-même sont extrêmement stricts sur le respect de la fin de la présidence. Le thème qui est juste, c'est une présidence à la fois. Et donc, nous serons amenés à travailler avec eux dès l'installation de Joe Biden à la Maison-Blanche. Mais il y a des sujets sur lesquels on va devoir travailler assez vite. J'en vois immédiatement trois. D'abord, les enjeux climatiques, qu'il va nous falloir prendre à bras-le-corps, je vais y revenir. Les enjeux sanitaires, on en a parlé pendant la première partie de l'émission, et puis la question iranienne. Il y a déjà trois sujets sur la table qui concernent la France, évidemment, au premier chef, comme membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi la communauté internationale. Sur le climat, les ouvertures ont été faites.
Joe Biden va retrouver.
Et donc, ça va nous permettre, je pense, de préparer de manière pertinente le rendez-vous de Glasgow, la COP26, qui n'a pas pu se tenir dans les bonnes conditions au cours de l'année 2020, pour faire en sorte que l'on accentue notre action collective contre le réchauffement climatique avec les États-Unis. Jusqu'à présent, pendant toute cette période, l'Europe était un peu toute seule avec la Chine à faire en sorte que les objectifs soient respectés.
Pour revenir à ce que disait Marlon Mourc, parce que c'est vraiment l'actualité du moment, c'est la Turquie qui fait peur à l'Europe et à la France. Important.
Oui.
Et on s'interroge sur le Haut-Karabakh et ce conflit avec, en fond de toile, la Turquie. D'ailleurs, la France a-t-elle soutenu suffisamment l'Arménie? Est-ce que on avait cru comprendre qu'on enverrait un avion d'aide humanitaire? Est-ce que c'est le cas?
J'abandonne donc les États-Unis là, puisqu'on va poursuivre sur la Turquie.
Non, mais on se demande si les États-Unis vont vous soutenir dans cette démarche vis-à-vis de la Turquie.
J'ai parlé
et Joe Biden.
Je n'ai pas parlé de l'Iran, mais ça sera un sujet sur lequel il faudra se mobiliser de manière très forte. Et puis, je pense que les États-Unis reviendront dans l'Organisation mondiale de la santé pour faire en sorte que la lutte pour que le vaccin soit largement partagé et diffusé dans le monde, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir en France, il faut l'avoir dans l'ensemble de la planète, que les efforts soient accompagnés et soient cohérents pour lutter définitivement contre ce virus. Sur la Turquie, avant de parler du Haut-Karabakh, c'est deux sujets liés, mais pas complètement. Nous avons évoqué ce sujet avec Mike Pompeo et nous étions d'accord sur l'analyse de la situation. Moi, j'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises les désaccords très importants que nous avons avec la Turquie sur cette volonté expansionniste, d'un côté, cette politique du fait accompli, parallèlement, que ce soit en Libye, où ils envoient des mercenaires syriens pour combattre d'un côté, que ce soit en Irak, où ils occupent la partie nord de l'Irak, au nord du Kurdistan irakien, que ce soit en Méditerranée orientale, où ils agressent de fait deux pays membres de l'Union européenne, que sont Chypre et la Grèce, que ce soit au Karabakh, où ils envoient aussi des mercenaires syriens, que ce soit aussi en Syrie. Nous avons beaucoup de désaccords. Il faut les traiter les uns après les autres, mais il faut encore avoir une disponibilité de la Turquie pour les traiter. Or, qu'est-ce que nous avons constaté depuis quelque temps? C'est qu'il y avait, de la part du président Erdogan, singulièrement au moment de la phase terroriste en France, mais aussi en Europe, des propos calomnieux.
Oui.
qui ne prête pas à la discussion et au dialogue. Et donc, la question est posée aujourd'hui à l'Union européenne.
L'Union européenne pour des sanctions qu'on attend
l'Union
toujours
européenne
contre la Turquie.
A annoncé au mois d'octobre qu'elle vérifierait la posture de la Turquie sur ces différents sujets au moment du Conseil européen du mois de décembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on va vérifier les engagements. Il ne suffit pas, je le dis très clairement, y compris à nos interlocuteurs turcs par votre antenne, il ne suffit pas que depuis deux ou trois jours, l'on constate des déclarations apaisantes de la part du président Erdogan. Il faut des actes. Et donc, moi, pour ma part, et pour c'est la position du président de la République, bien évidemment, on jugera sur les actes.
C'est quoi les actes que vous attendez du président
Erdogan ? Ce sont les Turcs qui doivent les identifier. Il y en a qui sont simples à faire dans Méditerranée orientale, il y en a qui sont aussi simples à faire en Libye, et il y en a aussi qui sont simples à faire au Haut-Karabakh. Ce qui m'amène indirectement au Haut-Karabakh. Mais donc voilà quel est le sujet,
sur
voilà,
le
quel, est, voilà quel est le calendrier.
Mais... Sur le Haut-Karabakh, vous parliez de mercenaires syriens. Emmanuel Macron a été plus loin en parlant de combattants djihadistes. Est-ce que ce n'est pas le rôle de la France de s'engager en Arménie quand il y a des combattants djihadistes? C'est le combat qu'on mène par exemple au Mali, justement pour protéger aussi la France quand il y a des combattants djihadistes. Est-ce qu'aujourd'hui, la France s'est suffisamment engagée pour le Haut-Karabakh et pour l'Arménie?
Je ne sais pas si... L'ensemble de nos auditeurs connaissent bien la situation arménienne et de l'Azerbaïdjan, mais simplement pour dire qu'il y a eu pendant six semaines une guerre entre ces deux pays et que le sujet central est celui du statut d'une partie de l'Azerbaïdjan qui est peuplée d'Arméniens et que l'on appelle le Haut-Karabakh. Je le redis parce que autrement on risque de s'y perdre. Et qu'il y a eu une guerre très douloureuse, très difficile, très sauvage, qui a été engagée et qui a donné lieu à un cessez-le-feu. La France, la Russie et les États-Unis ont sur ce sujet une responsabilité particulière. Ils ont été mandatés par les Nations Unies pour assurer le respect des uns et des autres, des engagements pris par les uns et par les autres. Et on nous appelle les co-présidents sur la situation du Haut-Karabakh. Nous avons beaucoup bougé pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu. À trois reprises, à la fois à notre initiative, à l'initiative de mon collègue Lavrov, à l'initiative de Mike Pompeo, des engagements ont été pris par les uns et par les autres pour arrêter les combats. À trois reprises, en six semaines. Mais, inévitablement, l'un ou l'autre, après, on ne sait plus qui.
Est-ce que ce n'est pas le rôle de la France, mais davantage l'Arménie actuellement?
L'Arménie est un peuple ami de la France, je vais y revenir, mais nous avions la responsabilité que la communauté internationale nous avait donnée, mais que les Arméniens eux-mêmes voulaient que l'on garde, ce qui nous obligeait à une posture d'équilibre. Parce que les autorités arméniennes au plus haut niveau, que ce soit le Premier ministre Pachinian ou mon collègue arménien, il a changé, il a démissionné, c'est un autre collègue depuis quelques jours, je l'ai encore eu au téléphone hier, nous sommes sur la même ligne, il faut que nous préservions notre rôle. Ça n'empêche pas que nous puissions aider l'Arménie, et en ce moment même, il y a un avion qui arrive,
je ne
sais pas s'il est arrivé, mais qui arrive à Erevan pour aider l'Arménie. Et il y en aura un autre la semaine prochaine, dont nous avons pris des engagements humanitaires très forts. Mais pour aller jusqu'au bout sur le Haut-Karabakh, il y a néanmoins dans le cessez-le-feu qui a été mis en œuvre des incertitudes que nous posons et nous voulons des éclaircissements à la fois sur les déplacés, parce qu'aujourd'hui au Haut-Karabakh il n'y a plus beaucoup d'Arméniens et la mission première c'est de faire en sorte que les Arméniens qui ont été chassés doivent retourner dans leur territoire. Deuxièmement, le statut des mercenaires, il faut qu'ils partent.
Il faut qu'ils partent.
Et ça, c'est une position des trois co-présidents. Il faut qu'ils partent. Et ensuite, la question du patrimoine religieux et culturel, sur lequel le président de la République a pris des initiatives avec l'UNESCO, et que j'ai pu partager hier, et avec mon collègue arménien, et avec mon collègue azerbaïdjanais, pour préserver tout cela. Ensuite, on parlera du statut. Mais on ne peut pas parler du statut quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est aussi l'avis des autorités arméniennes.
Alors, au-delà de l'Arménie, la Turquie, qui joue un rôle important actuellement, tous les regards sont braqués contre, devant le président Erdogan, qui inspire visiblement d'autres dirigeants. On a une ministre pakistanaise aux droits de l'homme qui a comparé le sort réservé aux enfants musulmans en France aux enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Autant dire qu'elle compare le président Macron à un nazi. Le mal est profond. Est-ce que vous allez rappeler l'ambassadeur de France que nous avons dans ce pays ? Et est-ce que vous avez des inquiétudes pour la sécurité de nos ressortissants français dans ces pays musulmans qui ont ce genre de propos ?
Cette déclaration est insupportable et inacceptable. Nous allons prendre les mesures nécessaires à cet égard, y compris que nous avons déjà pris des mesures de demande de retrait de ces propos des réseaux sociaux.
Et le rappel de l'ambassadeur ?
Mais il semble bien que ce soit un peu plus compliqué que ce que je pensais avant d'arriver ici, puisque manifestement, il y a des médias qui ont été instrumentalisés et qui ont elles-mêmes démenti l'information qui a provoqué votre réaction sur cette situation. Donc, comme toujours en diplomatie, on regarde de près avant d'agir pour éviter de faire des bêtises, surtout dans un moment où il y a beaucoup de fake news. Il n'empêche que les manifestations qui ont eu lieu contre la France ne sont pas acceptables et que nous avons pris les mesures nécessaires pour sécuriser l'ensemble de nos postes à l'étranger, y compris au Pakistan, y compris avec l'accord des autorités pakistanaises que je m'en suis occupé personnellement.
Quel est le niveau de menace concrètement qui pèse sur les Français ici et dans le monde ? Partout dans le monde, vous l'aviez dit.
C'est un niveau de menace pas uniquement sur les Français. C'est un niveau de menace sur les Européens, on a vu. Mais c'est un niveau de menace aussi sur les États musulmans. Sur le terrorisme, même si nous avons été victimes en première ligne, dans des drames épouvantables les jours derniers. Et il n'empêche que, il y a eu les attentats de Vienne. C'est donc l'Europe qui est en cause. Et profondément, la volonté des groupes terroristes et des groupes djihadistes, c'est de déstructurer les États, de créer du séparatisme partout. Et remarquez bien le nombre de victimes des attentats. Il y a beaucoup plus de victimes d'attentats dans le monde qui sont des musulmans que des
populations. Pardonnez-moi d'être un peu franco-français.
Non, mais je reviens là-dessus pour vous montrer l'ensemble de la dimension.
Bien sûr, mais vous aviez alerté sur le danger qui pesait sur les Français dans le monde. C'est quoi le niveau de menace aujourd'hui ?
Le niveau de menace est grand, mais il a toujours été grand. Daesh, ça date de 2014. Et donc, depuis les attentats à Paris, c'est 2015. Mais Daesh date d'avant. Et depuis cette date, nous sommes soumis au risque de terrorisme. Je l'ai connu comme ministre de la Défense, je le connais comme ministre des Affaires étrangères. Ça suppose de notre part, dans l'ensemble des postes, et de pas uniquement des postes de siège de l'ambassade, mais des lycées, des établissements et des Français, une grande vigilance que, je crois, nos ambassadeurs mènent avec la plus grande attention. Mais il faut être très, très vigilant.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur le ministre, je m'appelle Aymeric Éloin, je suis expert armes à Amnesty International. Le 18 novembre, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a rendu public un rapport sur le contrôle des ventes d'armes de la France. Il fait le constat d'un manque de transparence du gouvernement, d'une interprétation trop extensive du secret défense et appelle à la mise en place d'un contrôle parlementaire. Allez-vous enfin agir en faveur de moins d'opacité et encourager la mise en place d'un contrôle parlementaire en facilitant l'accès à certaines données ?
Donc, il y aurait un contrôle parlementaire sur la vente d'armes, comme c'est le cas en Angleterre.
Mais c'est une question juste, mais c'est une question à laquelle c'est toujours délicat de répondre. Mais je vais essayer de le faire le plus clairement possible. Quand j'étais ministre de la Défense, je le dis à notre interlocuteur, j'ai fait en sorte qu'il y ait annuellement sur le bureau de la Commission des Affaires étrangères et la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport exhaustif sur les ventes d'armes de l'année précédente. Ça existe. Je l'ai institué. Et non seulement ça existe, mais ça fait l'objet d'un débat. C'est-à-dire que le ministre de la Défense, ou la ministre de la Défense maintenant, vient devant les commissions ad hoc et explique le document et répond aux questions. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Sans doute pas. J'ai lu le rapport de M. Jacquemert et de Mme Tabarot dont vous parlez, dont mon interlocuteur parle. Il y a des propositions, il vient de sortir, il y a des propositions intéressantes qui sont suggérées. Et je pense que le gouvernement sera appelé à s'en saisir. En gardant néanmoins les responsabilités de chacun, la responsabilité de l'État et la responsabilité du Parlement, et en gardant évidemment la partie du secret défense qui est tout à fait essentielle pour assurer la sécurité de la France.
Question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Attal.
Bonjour à tous. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Alors un internaute a attentivement écouté vos propos concernant le vaccin et il s'étonne. Il vous demande mais pourquoi cette obsession du vaccin et il vous demande est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre tout cet argent dans la recherche pour trouver un traitement plutôt qu'un vaccin.
L'un n'empêche pas l'autre.
Est-ce que le gouvernement, c'est une piste
C'est les deux. Le problème, c'est que, à ma connaissance, mais je n'ai pas la compétence du ministre de la Santé. Parfois, j'ai eu l'impression ce matin d'être un peu ministre de la Santé. Je voudrais dire à Olivier Véran qu'il ne s'inquiète pas.
Non,
je
n'ai pas fait. On a parlé des vaccins.
Sur les vaccins, il y a une dimension internationale, mais sur les traitements aussi. Et je dis à notre interlocuteur, c'est la raison pour laquelle, à l'initiative du président Macron, il a été mis en place un dispositif qui s'appelle ACTA, du mot accélérateur, j'ai plus toutes les consonances qui vont après, mais accélérateur pour les vaccins et les traitements, qui est largement financé et par l'Union européenne et aussi par beaucoup des participations publiques et privées, pour accélérer et la mise en œuvre des vaccins et la mise en œuvre des traitements. C'est vrai qu'il faut faire les deux.
Autre question, Marc.
Oui, alors vous avez jugé les critiques contre le Conseil de défense de pittoresque et elle, Lise, elle trouve qu'au contraire, ça ressemble à un huis clos qui nuit à la démocratie et elle vous fait une proposition. Pourquoi ne pas accueillir à votre table le numéro 2 de l'État, Gérard Larcher, qui était justement à votre place au grand jury la semaine dernière?
Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale sont informés régulièrement de l'état d'avancement de nos décisions et de nos propositions.
Donc,
mais je crois que c'est bien ainsi et je crois qu'il est
défense important.
Non, il faut pas confondre les rôles. Il y a le Parlement et il y a le gouvernement. Et si on confond les rôles, alors à ce moment-là, on va dans une forme de déresponsabilisation et de l'un et de l'autre. Donc il importe que le Parlement soit ensuite informé, à commencer par les deux présidents des assemblées.
Autre question.
Oui, cette semaine, Ségolène Royal a déclaré comprendre que certains se sentent insultés, je la cite, par les caricatures de Mahomet. Donc ses propos ont étonné, lui ont valu d'être critiqué par des députés de La République En Marche. Est-ce que vous comprenez ce qu'a voulu dire Ségolène Royal?
Je comprends que certains parties de la population des pays musulmans aient pu être choqués par les caricatures. Mais cela ne m'amène pas à dire qu'il ne faut pas de caricatures. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les caricatures, avec tous les dessinateurs, mais la liberté d'expression est à ce prix, et donc il faut qu'on accepte en France de ne pas être d'accord avec telle ou telle caricature. Et il est possible, et je crois que c'est sûr, que dans certains pays musulmans, les caricatures aient pu choquer, oui. Mais ça fait partie de nos libertés.
Marion Mourgue.
Vous deviez rassembler les voix de gauche au sein du gouvernement. Est-ce qu'on entend assez ces ministres de gauche? Et deuxième question, est-ce que pour vous, une candidature de François Hollande en 2022 pour rassembler la gauche se justifie?
Vous savez, c'est pas un match non plus entre ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite, ceux qui sont du centre, ceux qui sont de en même temps dans le gouvernement. Moi, j'ai rejoint avec d'autres Emmanuel Macron, parce que je me sentais en phase avec lui dans la lutte contre ce qu'il appelle l'assignation à résidence, que ce soit l'assignation à résidence sociale ou l'assignation à résidence territoriale. Je me sentais en phase avec lui dans sa dynamique européenne. Je me sentais en phase avec lui dans sa volonté de réhabiliter l'école. Bref, toute une série d'éléments fondamentaux qui forment mon histoire de gauche.
Et vous êtes toujours en phase.
Oui, quand j'ai des choses à dire, je le dis, mais ce n'est pas un tel contre un tel. Nous contribuons, venant d'horizons différents, à la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron et à la mise en avant d'un certain nombre de projets. Quand je vois que le plan de relance permet la mise en œuvre en chômage partiel avec une forme de bouclier contre les licenciements qui a été mise en œuvre, je m'y reconnais très bien. Quand je vois qu'on supprime la taxe d'habitation, je m'y reconnais très bien.
Quand
je vois
les
travaux qui sont faits pour aider au plan de grande pauvreté, je me trouve tout à fait à l'aise dans tout cela. Mais ce n'est pas une mesure ici à gauche, une mesure ici dite à droite, c'est un ensemble cohérent qui fait d'ailleurs la force du président de la République.
Sur l'actualité à venir, Amélie,
devant la justice, il se dit victime d'acharnement judiciaire, qu'en pensez-vous?
Je n'en pense rien.
Il doit être candidat, il peut l'être.
Je ne suis pas à la place de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas à me prononcer sur une décision de justice. Je connais Nicolas Sarkozy, j'ai du respect pour lui comme j'ai du respect pour tous les anciens présidents de la République. Après, c'est le choix libre de sa candidature et ça le regarde lui.
Vous soutiendrez Emmanuel Macron pour 2022?
Absolument.
Est-ce que vous serez son ministre à nouveau en 2022?
Écoutez, ça, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour en parler.
Merci beaucoup, Jean-Yves Le Drian. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, bon courage à tous. À la semaine prochaine.